Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré. À demain, bonjour à toutes et à tous. Une quatrième année de guerre a débuté en Ukraine. Des dirigeants occidentaux sont en visite là à Kiev pour marquer leur soutien. Le président Zelensky appelle à une paix réelle et durable en 2025. La Russie, de son côté, affirme qu'elle cessera les hostilités quand elle aura obtenu ce qu'elle veut, des négociations. Par ailleurs, à Marseille, dans le sud de la France, trois engins explosifs ont été lancés sur le consulat russe sans faire de blessés. À suivre aussi, Joseph Kabila qui sort de son silence. L'ancien président congolais accuse l'actuel Félix Tshisekedi d'être responsable de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Un nouveau procès hors norme en France, celui de l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec, accusé de violences sexuelles sur près de 300 patients, pour la plupart des enfants. Et puis la Côte d'Ivoire, spot de surf en Afrique de l'Ouest, la station balnéaire d'Assigny vient d'accueillir l'Africa Surf Tour 2025. 3 ans de résistance, 3 ans de gratitude, 3 ans d'héroïsme absolu des Ukrainiens. Message de Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux au 3e anniversaire de la guerre contre la Russie. Une alerte aérienne a été déclenchée dans la matinée sur l'ensemble du territoire ukrainien, alors même que plusieurs dirigeants européens sont en visite à Kiev, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, pour marquer leur soutien au pays. L'Ukraine inquiète face au revirement diplomatique américain et sur le front, face à l'armée russe qui continue de grignoter du terrain dans l'Est, les militaires ukrainiens sont sous pression. Reportage Anastasia Becchio et Boris Vichitz.
Sa longue barbe ne parvient pas à masquer les signes de fatigue sur son visage. Le sergent Oleksiy Hodzenko ne le cache pas, il est exténué.
Je suis fatigué, mon corps, mon dos, ma tête est fatiguée. Tout chez moi est fatigué. Depuis 2021, je n'ai pas pris de vacances normales, celles où je peux éteindre mon téléphone.
Ancien journaliste, Oleksiy s'est engagé dans l'armée pour combattre les forces séparatistes dans le Donbass en 2019. Un engagement qui a un prix.
J'ai passé exactement un tiers de ma vie à la guerre. Je ne possède pas, comme les gens de mon âge, ma propre maison, ma propre entreprise ou ma propre voiture. Je n'ai ni femme ni enfant. Parce que si les gens comme moi, nous ne choisissons pas de nous battre pour l'indépendance de l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine, alors rien de tout ça ne n'existera. Il faut bien que certains se sacrifient, c'est une guerre sainte.
Comme beaucoup, le trentenaire attend la fin de cette guerre, mais pas à n'importe quel prix.
Il est clair que dans toutes les armées, il y a des maniaques sanguinaires qui aiment ça. Mais la plupart des gens n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas ces missiles qui explosent. Moi, j'en ai soupé, j'en ai assez. Mais puisque j'ai commencé, il faut bien que j'aille au bout. À la guerre, j'ai déjà enterré mon père et une tonne d'amis. Mon répertoire téléphonique ressemble plus à une longue nécrologie. Dans ces conditions, comment puis-je arrêter ?
Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
Voilà, arrêter la guerre, mais à quelles conditions ? Le président français en parle aujourd'hui avec Donald Trump. Emmanuel Macron en visite à Washington pour présenter des propositions pour tenter de convaincre le président américain de ne pas tout céder à Moscou. Tête à tête prévue à 17h, temps universel. Pour Moscou, en tout cas, la Russie cessera les hostilités quand elle aura obtenu ce qu'elle veut, des négociations, déclarations du porte-parole du Kremlin, Sergueï Lavrov. Moscou qui demande par ailleurs une enquête après une explosion au consulat russe de Marseille tout à l'heure dans le sud de la France. Selon la police, 3 engins explosifs ont été lancés sur le mur d'enceinte du bâtiment. Il n'y a pas de blessés. Par ailleurs, en Russie, l'appel du français Laurent Vinatier vient d'être rejeté. Ce chercheur condamné en octobre dernier à 3 ans de prison ferme pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'État. En Allemagne, Friedrich Merz se lance dans des négociations pour monter une coalition. Le chef de file des conservateurs allemands, vainqueur des élections d'hier, mais il ne pourra pas gouverner seul. Il a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas d'alliance avec le parti d'extrême droite, l'AfD, arrivé en deuxième position avec un résultat record. Calme précaire ces derniers jours dans l'est de la RDC, dans les Kivus, nord et sud, après les récentes avancées du groupe armé M23, épaulé par des soldats rwandais. Congolais. Une situation dénoncée à distance par Joseph Kabila, l'ancien président, silencieux depuis 6 ans. Il s'exprime dans une tribune publiée dans le journal sud-africain Sunday Times et il accuse directement le président Félix Tshisekedi d'être responsable de la crise sécuritaire. Pascal Moulégua.
Joseph Kabila s'est adressé aux dirigeants sud-africains et à la SADC, soulignant que la solution à la crise en RDC ne réside pas uniquement dans l'envoi des troupes et d'équipements militaires. Il insistait sur le fait que les griefs du peuple congolais contre le pouvoir en place doivent être pris en compte. La RDC est selon lui au bord de l'implosion avec une situation sécuritaire délétère. Kabila accuse son successeur Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique, caractérisé, je cite, par les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires, extrajudiciaires, la répression de l'opposition, la censure des médias ainsi que l'exil forcé des nombreux opposants, des journalistes et des leaders d'opinion, y compris des chefs religieux. Il affirme que d'innombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ne cesseront pas même après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda ou la défaite militaire du M23. Les relations entre les chefs de l'État et son successeur sont tendues. Le 13 février à Munich en Allemagne, Félix Tshisekedi a une fois de plus accusé Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23, ce que les proches de ces derniers ont toujours nié. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Le pape François a passé une bonne nuit et se repose, dernier point du Vatican, alors que le souverain pontife, 88 ans, est hospitalisé dans un état critique depuis 11 jours maintenant. C'est une affaire tentaculaire et sordide, jugée en France à partir d'aujourd'hui. Procès hors norme de Joël Le Squarnec, ancien chirurgien qui fait face à 299 victimes. Elle l'accuse de violences sexuelles. Des enfants, pour la plupart, à l'époque des faits, entre 1989 et 2014, Baptiste Coulon.
Mai 2017, le domicile de Joël Le Squarnec est perquisitionné. Sa voisine a déposé plainte. Elle accuse le chirurgien d'avoir abusé sexuellement de sa fille à travers la clôture du jardin. Dans la maison, les enquêteurs découvrent des contenus pédopornographiques et surtout plusieurs journaux intimes. Des dizaines de pages qui décrivent 25 années de viol et d'agressions sexuelles que Joël Le Squarnec aurait commis dans plusieurs hôpitaux à partir de 1989. Des carnets où figurent le lieu, la date de l'agression et le prénom de la victime. Les enquêteurs en identifient plus de 300 agressés dans leur chambre au bloc opératoire, souvent sous anesthésie. Des enfants qui apprendront parfois plus de 20 ans après les faits, une fois adultes, qu'ils sont victimes de Joël Le Squarnec. Le chirurgien a sévi 25 ans malgré les alertes remontées par certains de ses collègues, malgré une première condamnation en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Alors y a-t-il eu des failles et que savait son entourage ? Ce sont à ces questions que les victimes attend une réponse. 4 mois d'audience démarrent aujourd'hui. Joël Le Squarnec risque jusqu'à 20 ans de prison.
En France encore, le ballet politique se poursuit au Salon de l'agriculture à Paris avec la visite du Premier ministre François Bayrou. En Côte d'Ivoire, c'est un spot bien connu des amateurs de surf, la plage d'Assigny à moins de 100 km d'Abidjan. Elle vient d'accueillir l'une de ses premières compétitions internationales avec 5 pays participants. Côte d'Ivoire, donc Sénégal, Ghana, Afrique du Sud et Libéria. Reportage Molamine Sissavani.
Ok, parfait. Long wave of yellow.
Perché sur un belvédère planté sur ce rivage de l'Atlantique, Omar Sey, patron de la Confédération africaine de surf lui-même, préside le jury.
You know, Ivory Coast is like very exposed.
Le Sud-Africain Paul Samson remporte la finale après avoir serpenté tout en maîtrise sur de grands rouleaux de vagues. Pour lui, ce tour met la Côte d'Ivoire en lumière pour plus de surfeurs africains.
More African surfers, man!
Faire de la Côte d'Ivoire une destination de surf, c'est la mission que s'assigne Nadi Sadi, co-organisateur.
Les jeunes surfeurs ivoiriens ne sont pas exposés à cette culture du surf-là. Et le fait d'avoir des surfeurs d'un si haut niveau, ça les inspire. Et c'est ça mon rêve, qu'aucun surfeur ivoirien ne manque de matériel et qu'ils puissent tous bénéficier des opportunités qui en découlent.
Souleymane Sidibé est de l'avis de tous le meilleur surfeur actuel de Côte d'Ivoire. Il s'est incliné en demi-finale, non sans panache.
Je suis très content d'être arrivé en demi-finale au milieu de tous ces grands surfeurs africains-là. Cette compète va permettre à beaucoup de gens de voir que la Côte d'Ivoire est une destination surf. Il faut qu'on puisse encadrer cette équipe-là pour que dans l'avenir, ils puissent montrer leur full potentiel et éventuellement ramener des médailles au pays.
Plusieurs écoles ivoiriennes de surf étaient en compétition dans les catégories jeunes. Mola Minsi Savané, Abidjan, RFI.
À Assigny, il est presque 10h10, comme à la pointe des Almadies, à Dakar, un autre spot de surf. Maintenant, c'est à vous, Emmanuel Bassi, pour 8 milliards de voisins. Bonne émission.